France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Il y a 75 millions d'animaux dans nos maisons et appartements. Alors si c'est un poisson rouge, les interactions sont rares, je vous l'accorde. On viendra plus tard à ceux qui ont des iguanes ou des serpents. Mais si c'est un chat, 16 millions d'entre vous ont un chien, presque 10 millions. Alors le plus souvent, vous le considérez comme un membre de la famille. Il y a un certain temps maintenant, nos invités pourront peut-être situer ça dans l'époque. Un certain temps que les chiens ne servent plus à prévenir d'un intrus ou à protéger les poules ou que les chats ne servent plus à boulotter les rongeurs. Ils ont leur place dans le salon, voire sur le canapé, voire dans votre lit. Et si vous êtes du genre à lui offrir un cadeau de Noël, ne vous jetez pas la pierre, vous n'êtes pas tout seul. Pas tout seul non plus à lui donner un nom qui pourrait être le prénom d'une personne. Je connais de près ou de loin un Elliot, une Philippine ou une Margot. Des bisous à Mathieu Vidard. Vous êtes peut-être seul dans la vie, votre animal est votre seule présence quotidienne. Peut-être que vous êtes en couple et avez décidé d'adopter un chien avant de faire un enfant, ou plutôt que de faire un enfant. Le plus souvent, vous avez des enfants et un chien ou un chat. Qui que vous soyez, à la fin, vous vous retrouverez tous au même endroit, dans la salle d'attente du vétérinaire. Et bien souvent, pour lui, soigner l'animal, c'est soigner le maître. Les animaux de compagnie ont pris une telle place qu'ils développent des maladies qui sont celles des humains, les phobies sociales, les troubles du comportement, l'anxiété, l'agressivité. Le cabinet du vétérinaire montre les mêmes inégalités sociales que n'importe quelle salle des urgences. Le vétérinaire se fait insulter quand les soins sont trop chers. Parfois, il voit le déclin de la ruralité. Il sait que celui qui tape son chien tape aussi peut-être sur ses enfants ou sa femme. Il a le blues, trop d'heures et pas assez de reconnaissance. Le véto, c'est une micro-société qui voit la France exactement telle qu'elle est et aussi telle qu'elle bouge. Alors propriétaire d'animaux, vétérinaire, protecteur des animaux, allergique aux animaux et au comportement de leur maître, vous êtes au bon endroit, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Dominique, c'est à vous, vous êtes le premier ou la première, je ne sais pas, la première. Et on vous salue, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Dominique.
Alors voilà, je suis Dominique, donc j'habite dans le Var, hein, et donc je voulais témoigner. Donc j'ai un chien, Roméo, qui est âgé de 4 ans et demi et que j'ai adopté dans un refuge. Et j'ai 5 chats, anciens SDF, que j'ai recueillis, qui sont venus taper à ma fenêtre un jour et que j'ai recueillis. Donc ce que je voulais dire, c'était que par rapport aux chiens, alors j'ai toujours eu des animaux dans ma vie, et par rapport aux chiens, que donc Roméo, j'ai choisi, donc avec ce dernier, ce chien que j'ai depuis peu, j'ai choisi de, donc j'ai fait des cours de recherche d'éducation, parce que c'est un chien de chat, c'est un chien qui a besoin de se dépenser, etc. Donc ça décide quand même des particularités, et je fais partie d'une équipe de recherche utilitaire de pistes de recherche de personnes disparues. Donc avec ce chien, j'ai établi vraiment une relation, on va dire, très particulière, dans le sens que c'est un animal qui, comme tous les chiens d'ailleurs, je pense, comprend très très bien votre état, dans lequel vous êtes, est-ce que vous allez bien, est-ce que vous n'allez pas bien. Et je suis aujourd'hui, j'ai une relation avec ce chien qui est vraiment, je dirais presque vitale. Je suis mariée, j'ai des enfants, etc. Mais pour moi, ça, c'est très important. Et par rapport à mon vétérinaire, donc j'ai établi une relation avec un vétérinaire. Bon, je connais bien mon vétérinaire, ça fait plusieurs années que je vais dans ce cabinet. Mais on a un débat, des discussions souvent par rapport à des situations, et on échange relativement bien, ce qui permet d'établir, on va dire, un bilan ou un traitement qui est vraiment adapté à mon animal. Notamment, j'ai un de mes chats qui s'était fait attaquer par des chiens il y a quelques années, qui était vraiment dans une détresse vitale. Donc on a réussi à faire quelque chose pour le sauver, bien sûr, mais surtout aussi, ça a été adapté par rapport à l'état de l'animal.
Ben, j'imagine. Donc, voilà. Dominique, merci beaucoup pour votre témoignage, merci pour cette entrée en matière qui va lancer notre discussion ce soir. Autour de la table, il y a Julien Solonel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef du service société du Parisien Week-end et c'est vous qui nous avez donné l'idée de faire cette émission grâce à votre livre qui s'appelle La France vue par les vétérinaires, publié chez Buchet-Castel. Il y a Éric Baraté, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon, spécialiste justement de l'histoire des animaux. Vous avez notamment écrit une histoire animale du monde chez Talendier, cette année 2025. Il y a des mots qui résonnent dans ce que nous a dit notre auditrice Dominique. Elle parle d'une relation très particulière, elle parle d'une compréhension immédiate entre son animal et elle. Elle parle d'une relation qui est une relation vitale. Julien Solonel, d'abord, honneur à vous, puisque c'est vous l'auteur du livre. Vous la reconnaissez. intéressé, j'imagine, Dominique, dans ce que vous avez pu voir dans les salles d'attente vétérinaires, surtout sur cette relation extrêmement forte.
Oui, bah effectivement, moi, au fil de mon enquête, un des enseignements, une des choses que j'ai découvertes, c'est la force de ce lien qui unit aujourd'hui les Français à leurs animaux. Il y a 60% des foyers français qui ont un animal, et quand on les interroge, effectivement, ces propriétaires de chiens, de chats, disent, voilà, moi, mon chien, c'est comme un membre de la famille, quoi. J'y suis attaché. Sinon autant, mais comme à quelqu'un avec qui je vis et qui fait partie de ma famille.
Mmh. Et donc... J'ai oublié de présenter Corinne Bisbard qui est avec nous également. Je m'excuse, Madame Bisbard.
Pas de problème.
Vous êtes vétérinaire,
bonsoir.
Vous êtes conseillère de l'Ordre national des vétérinaires en charge des questions sociales. Éric Baraté, il y a un moment, j'imagine, dans les changements d'époque, où, c'est ce que je disais en introduction, le chien a cessé d'être celui qu'on met dehors parce qu'il faut chasser les nuisibles ou les choses comme ça, pour trouver sa place sur le canapé. Il y a le moment où ça tourne, c'est quand le moment où ça tourne ?
Alors c'est essentiellement 20e siècle, hein, avec des précédents, ça vient de l'aristocratie d'anciens régimes, qui invente le chien de compagnie, c'est repris par la bourgeoisie urbaine au 19e siècle. Et puis ça s'est diffusé à tout le monde dans la seconde moitié du XXe siècle, hein, jusque dans le monde paysan, à la fin du siècle, où maintenant on voit des paysans qui ont des chiens de compagnie, alors qu'autrefois, pour eux, un chien, ça devait travailler.
Est-ce qu'on est en train d'être même à une autre phase, en fait, quand les gens disent, effectivement, comme le disait Julien Solonel, qu'ils appartiennent à la famille, quand ils ont leur place à l'intérieur du foyer, pas seulement pour la compagnie, mais avec lesquels on dort parfois, qu'on traite aussi comme des enfants, finalement, parce qu'on imagine que leurs mots sont les mêmes mots que les enfants. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on va encore plus loin qu'on allait ?
Oh bah c'est déjà ancien, hein. Ça a une quarantaine d'années, l'enfant de la famille. Mmh. Simplement, ça prend de l'ampleur, je dirais, voilà. Ça se démocratise. Mmh. C'est tout à fait parallèle aussi à la place de l'enfant dans la famille. Les enfants sont les grands vecteurs d'animaux de compagnie. Hein, et c'est eux, par exemple, qui ont poussé aux cadeaux de Noël, aux anniversaires, etc. etc. Ce qui ne se faisait pas jusqu'aux années 50-60, hein, évidemment. Et c'est tout à fait parallèle. On se comporte avec... son chien ou son chat, comme on se comporte avec ses enfants. Et donc, par exemple, on est beaucoup plus joueur. On leur parle, on aime les solliciter, on aime les interactions. Hein, vous savez, il y a un siècle, Thomas Mann, l'écrivain Thomas Mann, fait un petit livre sur sa vie avec son chien. Il aime bien le promener, mais il n'est pas question de lui parler, de jouer avec, etc. Et alors, j'étais allé voir les biographies des enfants Thomas Mann, ils ont tous écrit. Et ben, les relations avec le père étaient extrêmement limitées. Hein. On le voyait une fois par jour à un repas, et on ne se parlait que si on avait le droit... d'ouvrir la bouche.
Corinne Bisbard, ce que dit aussi notre auditrice qui m'a frappée, c'est il comprend totalement mon état. Et moi, j'aimerais savoir, en fait, si effectivement les animaux comprennent les états, ou si nos états, finalement, transpirent sur les animaux, si, à la fin, cette proximité-là fait que le maître voit son animal comme il est lui-même. C'est quoi le mécanisme ?
Alors, je pense qu'il y a les deux qui jouent, mais nos animaux de compagnie sont tout de même très très sensibles à notre langage corporel. Et selon nos états d'âme, selon l'état dans lequel on se trouve, ils vont effectivement parfaitement comprendre un certain nombre d'attitudes qui sont inconscientes hein, de notre part. Je pense qu'avec le langage humain, on a perdu l'habitude d'analyser les langages corporels. Mais par exemple, toute l'éducation des chiens, des chevaux, va être basée sur l'attitude que l'on prend et le langage corporel que l'on a. Après, moi j'ai, et je ne suis pas la seule à le constater au niveau des vétérinaires, hein, très très régulièrement, on explique à nos jeunes clientes que finalement, leur animal de compagnie a quasiment su qu'elles attendaient un enfant avant elle. Et je pense qu'il y a des molécules que l'on émet, qu'ils ressentent, qu'ils sont... Bon, d'abord, c'est pas pour rien qu'un chat ou un chien flaire plus de 300 fois supérieur à celui de l'être humain. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'ils sont effectivement parfaitement capables de ressentir. Après, je reste aussi intimement convaincue que on a envie de ce contact-là, de cette compréhension, de cette fusion avec nos animaux de compagnie, et très certainement qu'on fait aussi beaucoup d'anthropomorphisme, et qu'on a, on imagine que leur regard exprime cela. Est-ce que c'est tout le temps vrai ? Je pense que dans une grande majorité des cas, ça l'est. Mais il y a aussi ce que l'on veut comprendre et entendre dans le comportement de nos animaux.
C'est ce qu'on voit beaucoup dans votre livre, Julien Solonel. Effectivement, on pourrait dire que c'est de l'anthropomorphisme, effectivement. Enfin, techniquement, c'est de l'anthropomorphisme. Mais ça dit, effectivement, à la fois l'étroitesse de la relation, mais l'étroitesse de la relation emmène tout le reste, en fait. Et c'est aussi ce que vous racontez. Ça veut dire qu'on s'en occupe comme on s'occupe d'un enfant. Ça veut dire qu'on le soigne, évidemment. Mais que ça coûte extrêmement cher. Ça veut dire qu'on se comporte au fond avec le vétérinaire, dans le cabinet du vétérinaire, comme on le fait aux urgences, c'est-à-dire avec exactement la même exigence que si on allait avec un proche ou un enfant aux urgences.
Oui, effectivement. Bah, moi, ce que j'ai vu, c'est que de ce nouveau lien, de cette nouvelle place qu'ont aujourd'hui les animaux dans la famille, découle plein de choses. Vous en avez parlé. Comme on les considère comme des membres de la famille, à ce titre-là, on veut qu'ils soient soignés aussi bien que des membres de la famille. D'où le développement de soins de plus en plus high-tech, de plus en plus précis, qui permettent de soigner des maladies de plus en plus graves. Moi, je suis allé dans un centre hospitalier vétérinaire. J'ai vraiment été ébahi par le niveau de soins. Il y a des IRM, tous les animaux du plus gros chien au petit lézard sont tous anesthésiés. Donc, effectivement. Et aussi, la mort de l'animal devient de plus en plus comme un deuil humain. Moi, certains vétérinaires m'ont dit que pour certains, c'est comme le deuil d'un enfant. Quoi.
Ouais. Et alors, on y viendra peut-être en fonction des questions, mais les vétérinaires parlent très bien de l'euthanasie aussi, qui a pu être un geste banal, qui n'est plus du tout un geste banal s'agissant d'un animal. Vous vouliez ajouter quelque chose, Éric Baraté, puis on retourne au standard.
Oui, à propos de cette montée en gamme des traitements, qui est réelle, vous l'avez bien dit, il faut voir aussi que ça devient de plus en plus cher.
Alors, un IRM, c'est vous qui m'avez appris, 600 euros.
Oui, et que du coup, vous avez une partie de la population des chiens et des chats qui sont en train de passer sous les radars vétérinaires, parce que ça coûte trop cher. Je m'en suis aperçu en cherchant sur les réseaux sociaux pour avoir un troisième chien, et le nombre d'offres, de dons ou de ventes de chiens ou de chats qui sont ni pucés, ni vaccinés, etc., est absolument ahurissant. Et donc là, on a un contre-coup de cette montée en gamme.
Véronique est en Vendée. Bonsoir, Véronique.
Bonsoir, on vous écoute. Merci de prendre mon appel. Je vous parle sous le contrôle de mon chat.
Ah, allons bon. Passez-le-moi, ça ira plus vite.
Oh là, il dort. Donc, je ne suis pas sûre qu'il ait vraiment envie de parler. Non, juste pour dire que, le rôle du vétérinaire, quand on aime ses animaux, quand on s'en occupe, c'est très important. Hein, c'est très important. D'avoir un vétérinaire en qui on a confiance, qui va aussi va pouvoir vous rassurer quand votre animal est malade, quand il est blessé, qui va vous dire comment ça va se passer. Nous on a des chats à la maison depuis 30 ans et donc on a eu un blessé par voiture, on a eu une polyarthrite à 6 mois. Et voilà quoi. On a toujours été bien reçus. Les vétérinaires nous tenaient au courant. Ils nous rappelaient même quand ils travaillaient pas. Il y en a un qui est revenu pendant ses vacances. Enfin voilà. Quoi.
Merci beaucoup pour votre
très très important.
Merci pour votre témoignage, Véronique. Corinne Brisbard, je suis sûre que vous l'avez déjà entendu dans un cabinet. Véronique, elle nous dit on a eu telle maladie, on a eu celle-là, comme on le dit effectivement quand on parle de ce très proche. Je voudrais vous confier en plus deux messages que j'ai sous les yeux. Il y a celui d'Arnaud qui dit: après une rupture très difficile, j'ai pris mon van, j'ai trouvé un chiot de 6 semaines, on est parti sur les routes, elle est devenue ma compagne de vie et sa présence m'a permis de remonter la pente. On a Marine sur WhatsApp qui dit: j'ai 3 chiennes et heureusement elles sont mes complices, mes amis de jeu, de promenade, remplissent le silence de ma solitude récente. Le choix de ces mots-là, Corinne Brisbard, elle dit quand même la place de l'animal, elle parle de nous, la société, et elle parle de tout ce qu'on a mis dans nos animaux derrière.
Alors, elle dit la place de l'animal, elle dit sans doute aussi la profonde solitude d'un certain nombre
elle
de personnes.
Elle dit l'ultra-moderne solitude de nos vies aujourd'hui.
Moi, j'ai commencé à le réaliser beaucoup sur des personnes âgées, qui, ça fait 40 ans que j'exerce maintenant, et jeune vétérinaire, je me suis rendu compte à quel point certaines personnes âgées étaient seules avec leur animal. J'en avais, pour certaines, j'étais persuadée qu'elles ne se préparaient à manger que parce qu'elles préparaient à manger à leur chien qui avait une alimentation ménagère. Mmh. Et au décès du chien, tout s'écroulait. Ça m'est arrivé d'avoir comme ça des entretiens avec le médecin, justement, sur ce qu'il fallait faire, ne pas faire, jusqu'à quel point aller pour soigner la personne seule. Maintenant, je le constate aussi chez d'autres personnes, c'est-à-dire que je pense qu'on a... Je sais pas, ça m'arrive de me poser la question, à quel point on a créé une société avec une solitude pareille, pour que justement... les gens reportent absolument tout ce besoin d'émotion, d'empathie, d'amour sur leur animal de compagnie. Et le nombre de fois où j'entends « mais vous savez, mes enfants ne me parlent plus, je suis toute seule, j'ai plus de famille », oui, ça c'est quelque chose... qu'on entend toutes les semaines dans nos cabinets.
Et c'est intéressant, Julien Solonel, ce qu'elle dit, Corinne Wisbar, la vétérinaire, parce que c'est bien ce que vous écrivez aussi. Le médecin, le vétérinaire s'occupe de soigner le chien ou le chat. Il est aussi, parfois, en partie, le psy du patient qui racontera tout ça, en fait, dans le bureau d'un psy, d'un véto.
Oui, effectivement, c'est un véto de l'Est de la France qui me disait ça, qui disait, des fois, je me demande si on est dans un cabinet de véto ou un cabinet de psy, parce que ils reçoivent aussi cette parole des maîtres, et pendant qu'ils soignent l'animal, ils échangent avec le maître qui va raconter sa vie. Et ça s'est aussi beaucoup vu, beaucoup m'ont parlé pendant la crise du Covid, où effectivement, quand les gens ont pu sortir, ils ont pu aller chez le véto, et il y a des gens qui venaient avec leur animal qui n'avaient finalement pas de maladie, rien du tout, mais parce que les gens voulaient sortir et parler avec quelqu'un. Mm-hmm. Et donc, ils allaient discuter chez le véto.
Les RTT, les 35 heures, le Covid, enfin c'est marrant, comme on a l'impression, Éric Baraté, que tout espace de liberté supplémentaire qu'on nous donne, on l'occupe avec un animal, en fait. Ou en tout cas, on a cette propension.
Oui, de plus en plus. Ouais. Il ne faut pas croire que les animaux de compagnie sont des animaux des gens seuls. Hein. Mmh, il y en a, évidemment. Seulement. Mais en statistique, plus on a d'enfants, plus la famille est grande et plus on a de chances d'avoir un animal. Il n'empêche qu'effectivement, comme ça a été dit, ça peut jouer ce rôle-là chez les personnes âgées. Ou chez... ce qui a aussi favorisé le passage des vétérinaires du côté de la psychologie, on pourrait dire, c'est que beaucoup sont devenus des vétérinaires comportementalistes. Mmh. Et donc, se sont spécialisés sur le comportement du chien, les problèmes éventuellement psychologiques du chien. Et évidemment, beaucoup de maîtres peuvent avoir des problèmes d'accord ou de psychologie avec le chien.
Mais est-ce que
ça permet ça aussi. Hein.
Mais est-ce que les problèmes, c'est plutôt à vous que je vais demander ça, Corinne Wisbar, est-ce que les problèmes psychologiques des chiens ne sont pas forcément liés aux problèmes psychologiques de leur maître? Enfin, je veux dire... un chien qui est agressif ou un chien qui est malheureux quand il reste tout seul parce qu'on l'a justement laissé trop longtemps. Est-ce qu'il y a de fait des chiens qui ont des problèmes de comportement ou est-ce qu'à notre corps défendant, c'est nous aussi qui provoquons des problèmes de comportement chez nos animaux ?
Alors, dans le comportement de l'animal, oui, quand on dit que beaucoup de vétérinaires sont devenus comportementalistes, le vétérinaire généraliste, de toute façon, fait des premières analyses sur le comportement de l'animal en consultation et éventuellement, il va, en cas de problème vraiment récurrent, référer à un spécialiste. Mais le généraliste, on est là pour en fait repérer ces troubles comportementaux. Et on essaye de les repérer, voire de les prévenir, dès les premières consultations, les premières consultations du chiot qui arrive, qui a 8-10 semaines, en fait, sont des consultations qui sont souvent très longues parce qu'on va prendre le temps de faire le bilan à la fois de la physiologie du chien, des besoins physiologiques, des besoins en nourriture, des besoins en promenade, et puis des besoins du comportement de l'animal. Et les troubles comportementaux de nos animaux, il y a sans doute une partie qui vient de nos propres comportements, mais je crois que ça fait déjà longtemps qu'on est sorti de cette médecine du comportement qui accuse systématiquement le propriétaire, comme au niveau des enfants, autrefois on pouvait accuser les parents d'avoir mal élevé leurs enfants.
C'est pas tant accusé, mais c'est l'idée. Moi, je connais un livrier, par exemple, qui vit dans 30 mètres carrés. C'est pas un livrier qui va bien.
Moi, j'ai connu un berger allemand qui vivait dans un petit appartement et qui était parfaitement heureux parce que son propriétaire le sortait 3 fois par jour, des heures par jour. Je le voyais qui allait le promener. Donc, je pense que, alors effectivement, c'est pas forcément à recommander de prendre un livrier qui est un chien qui a besoin de courir en vivant dans un appartement ou un berger allemand dans un appartement. Mais il y a beaucoup de choses qui se jouent avant la naissance, dans les conditions d'élevage. Les éleveurs, d'ailleurs, font un gros travail là-dessus. Dans les conditions de naissance, dans les conditions d'allaitement, de sevrage, un chiot ne va pas forcément avoir le même comportement s'il est né d'une chienne primipare, c'est-à-dire une chienne qui en est à sa première portée, ou s'il est né d'une chienne qui a déjà eu l'habitude de gérer une portée, de leur apprendre les contrôles, de leur apprendre les jeux, le respect dans la hiérarchie. C'est pas pour rien que la vente des chiots est interdite avant l'âge de 8 semaines, parce qu'on s'est rendu compte à quel point ces 8 premières semaines de vie du chiot étaient importantes. Pour les chatons, le phénomène de la socialisation est encore plus précoce. Et donc le travail de l'éleveur, des conditions d'élevage, est primordial. C'est bien pour ça qu'on lutte contre les trafics de chiens qui viennent des pays de l'Est, avec des chiots qui, en fait, changent de fratrie toutes les semaines, qui sont transportés, qui sont enlevés de la portée.
On voit bien l'importance, effectivement, du tout petit âge et du début. On va écouter une note vocale dans un instant. Éric Baraté, ce que je me demandais simplement, et s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de courrier, c'est est-ce qu'il n'est pas bon parfois de rappeler aux gens qui ont un animal, c'est un animal. C'est ça le sens de ma question, C'est un animal.
Bien sûr. Ce sont des êtres vivants dont il faut faire pour lesquels il faut faire attention. Il faut prendre en charge leur côté chat ou leur côté
chien. Mais les deux à la fois. C'est-à-dire, effectivement, c'est un animal, donc traitez-le correctement comme un animal, c'est pas un être humain non plus, donc il a forcément des comportements d'animaux.
C'est pas un objet, mais c'est vrai qu'en même temps, ces animaux-là vivent dans notre univers. Ils ont maintenant, les chiens, les chats, on meurt des maladies les plus fréquentes chez les humains, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires et les cancers. On voit apparaître, maintenant ça y est, c'est fait, les vétérinaires en sont conscients, on a vu apparaître en direct l'anxiété de séparation chez les chats. La création du chat-chien, c'est-à-dire qu'un chat qui n'est pas indépendant comme autrefois, mais qui au contraire veut être très proche de ses maîtres, parce que les maîtres, eux aussi, veulent des chats proches. Et donc l'anxiété de séparation, elle est apparue là depuis une quinzaine d'années.
Voilà, qui n'existait pas avant. Mon chat a fait une dépression, nous dit Louise, quand j'ai été hospitalisée un mois, alors que je l'avais confiée à une amie chez qui on va souvent. Elle s'est arrachée les poils du bas-ventre. Les chats s'inquiètent vite. Le mien reste prostré avec mon copain quand on se dispute. Il est très aisé de partir en vacances avec mon chat, en revanche, puisque je l'ai habitué toute petite à voyager en voiture ou à voyager en train. Vous parlez dans votre livre, Julien Cholonel, de tout ce qui existe aujourd'hui, les crèches pour animaux, les restos pour animaux, les hôtels pour animaux. On parlait des chats à l'instant qui ont changé un peu de comportement, puisque maintenant ce sont des chats qui restent accrochés au lieu de sortir dehors. Il y a les succès des chiens de poche, des lapins de poche, etc. Je me demandais jusqu'à quel moment dans votre enquête vous rendiez compte que on créait tout un univers en fait autour de cet animal, alors qu'au fond tout ce que demande le chat ou le chien, c'est de savoir où est son maître à côté, pas forcément de vivre dans une crèche ou dans un hôtel pendant les vacances.
Oui, c'est vrai. Et il y a aussi alors des spas pour animaux, et même des parfums pour animaux, des bijoux. Effectivement. Je pense que l'animal, en lui-même, il ne demande pas grand-chose. Après, je pense qu'il y a aussi un business derrière. Ouais. C'est aussi un marché énorme. Le marché, alors c'est le marché des soins vétérinaires, c'est 5 milliards d'euros dans le monde. Donc, effectivement, il y a aussi tout un business avec, derrière, des salons, tout un tas de produits, de nourriture... qui donc viennent un peu se greffer sur cet amour et cet engouement pour les animaux.
Voilà, on est d'accord que c'est pas le chien qui demande éventuellement quand les gens ont besoin de le laisser pour une semaine l'hôtel à 3 étoiles.
Non, mais en même temps, c'est les comportements des humains et des comportements des animaux de compagnie changent. Un chat, il y a un siècle, n'aurait jamais fait de l'anxiété de séparation. Mmh. Là, il n'y a aucun problème. Un chien errant, la plupart des chiens du 19e siècle étaient des chiens errants. Ils étaient plutôt inquiets lorsque les humains s'approchaient d'eux. Hein, donc, il y a un espèce de rapprochement réciproque des chiens, des chats d'un côté et puis des humains de l'autre, qui se comprennent du coup de mieux en mieux. On parlait tout à l'heure de la lecture des uns des autres. On se comprend de mieux en mieux.
On est en train de parler de la France vue par les vétérinaires. On en a deux qui nous attendent au standard. Il y a aussi une note vocale dans un instant. Nous sommes avec Julien Solennel, qui est chef du service société du Parisien et qui a écrit La France vue par les vétérinaires, avec Éric Baraté, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon et spécialiste de l'histoire des animaux, avec Corinne Bisbard, qui est vétérinaire et conseillère de l'Ordre national des vétérinaires, et avec Adeline et sa note vocale qu'on découvre ensemble.
Voilà, moi j'appelle pour réagir sur l'émission sur les animaux, les vétérinaires. J'étais assez étonnée quand mon cochon d'Inde est mort, il y a l'été dernier, d'avoir une carte de condoléances de la part des vétérinaires et beaucoup de prévenances au moment de voir le corps dans une salle. Voilà.
Merci beaucoup pour cette note vocale, Adeline. Waouh, voir le corps dans une salle. Corinne Bisbard, vous faites ça, vous, avec vos animaux morts ou pas?
Alors, je le propose systématiquement.
Okay.
Ça peut être important pour accepter le deuil.
Ah, mais c'est très, très triste, par ailleurs, là-dessus,
on est d'accord. Au moment des euthanasies, lorsque les gens ne veulent pas y assister, je propose systématiquement de revenir pour revoir l'animal et constater le décès. Et on a effectivement des personnes qui ont besoin de se recueillir. Et à partir du moment où ça peut les aider à vivre ce passage, je pense que c'est une bonne chose.
Y a beaucoup de choses sur la mort. C'est très intéressant, Julien Solennel, dans votre livre. Il y a deux choses, en fait. Il y a le traumatisme réellement que représente la mort d'un animal, mais alors à un très haut degré, parce qu'effectivement, ça fait beaucoup de peine. Et il y a aussi le traumatisme du vétérinaire. Enfin, il y a vraiment les deux à la fois.
Oui, effectivement, il y a les deux. Pour aller dans le sens de ce que disait Corinne Bisbard, aussi, ce qui se développe maintenant, c'est des euthanasies à domicile, c'est-à-dire où le chat ou le chien va être euthanasié chez lui, dans sa famille, entouré des gens, des humains qui l'ont aimé. Et effectivement, il y a cette deuxième partie dont vous parliez sur le poids que peut représenter l'euthanasie pour ceux qui la pratiquent, donc les vétérinaires. Alors, après, certes, chacun réagit différemment, mais moi, beaucoup de témoignages que j'ai pu recueillir, c'est un acte qui n'est pas anodin du tout, déjà annoncer, percevoir la peine des propriétaires, puis enlever la vie d'un être humain. Il y a beaucoup de vétérinaires pour qui c'est très très difficile.
Alors justement, les vétérinaires, on les attendait, ils sont là au standard, ils nous attendent. Voici Maëlle qui est à Lyon. Bonsoir Maëlle.
Bonsoir.
Bonsoir, on vous écoute. Jeune véto apparemment.
Oui, diplômée d'il y a l'année dernière.
Ok. Allez-y,
Maëlle. J'avais appelé, c'était surtout pour témoigner en fait du changement qu'il y avait eu dans les relations entre les vétérinaires et les propriétaires d'animaux. Uh-huh. Parce qu'en fait, mes deux parents sont également vétérinaires, mais eux, ils ont été diplômés au début des années 90, donc à une autre époque. Uh-huh. Et j'ai bien vu du coup l'évolution qu'avait donc mon père avec ses propriétaires et que moi j'ai avec les propriétaires. Ça n'a rien à voir. Déjà, je trouve qu'avec l'avènement, les réseaux sociaux notamment, avec les réseaux sociaux, en fait, on a une relation qui est très proche avec nos propriétaires. On va notamment, après une chirurgie, leur envoyer un SMS ou leur envoyer un message privé pour leur dire « tout s'est bien passé, votre animal va bien ». Et à la fois, donc, ce côté positif des réseaux sociaux, on va aussi le retrouver en négatif, dans le sens où on va avoir des propriétaires qui vont être très, très exigeants avec nous, qui vont à la fois, en fait, comme vous l'avez dit précédemment, considérer l'animal comme un membre de la famille, donc ils vont être prêts à donner beaucoup, mais à la fois qu'ils vont très vite nous dire qu'on est trop cher, qu'ils vont se plaindre énormément, qu'ils vont remettre en doute nos diagnostics avec leurs propres recherches internet, et aussi qu'ils vont souvent nous menacer en fait du mauvais avis sur Google, du mauvais avis sur les réseaux, pour essayer en fait de nous faire flancher, de nous faire faire des choses qu'on ne devrait pas faire, par exemple. Voilà, c'est surtout ça.
Et je suis assez... Maëlle, qu'est-ce qu'ils disent aux parents, du coup, quand vous leur racontez ça? Est-ce qu'ils disent oh là là, mais alors qu'est-ce qu'ils sont devenus, j'allais dire les patients, les propriétaires d'animaux, qu'est-ce qu'ils vous racontent, vos parents?
Je sais que mes parents, ils me disent surtout, mon père, il me dit surtout, c'est vrai que le métier, il a changé depuis que moi j'ai commencé. t'as du courage de vouloir faire le métier de nos jours, parce que c'est vrai que c'est pas pareil que ce que moi j'ai fait. Lui, pour lui, c'est plus facile, il est établi, il a son expérience, il a de la confiance en lui que moi je n'ai pas forcément en débutant. Donc toujours en fait ce syndrome de l'imposteur et cette peur de l'échec, elle est très présente chez les jeunes vétérinaires. On a toujours peur de mal faire avec les propriétaires, et on a vraiment, c'est que avant, quand lui parlait, les propriétaires l'écoutaient comme si c'était la science infuse. Moi je vois que quand je parle aux propriétaires, parfois ils doutent, et je sais que certains vérifient sur internet, parfois même pendant que je leur parle.
Ce qui est bien agréable. Il y a un chiffre que j'ai lu, je ne vais pas vous faire peur, Maëlle, chez Julien Solonel en le lisant, mais c'est que, vous allez m'aider, Julien, c'est 40% d'abandon de la profession avant 40 ans.
Oui, c'est ça.
Chez les vétérinaires. Vous le connaissiez, ce chiffre, Maëlle, ou pas? Je ne vous le souhaite pas, hein, mais ça dit des choses quand même.
Je me connaissais, une amie a fait sa thèse dessus, notamment sur les raisons de l'abandon après. Donc même en fait, au-delà de ça, il me semble que c'est un tiers d'abandon 5 ans après la sortie de l'école. C'est même très fort. Et en fait, il y a beaucoup de choses. Donc comme je vous l'avais dit, en fait, la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur. On est sûr qu'on est des métiers qui sont très prenants physiquement, mentalement. On fait face à la mort avec l'euthanasie, comme vous l'avez dit. Et puis en plus, on a beau être une profession féminine, moi j'ai moi-même fait ma thèse dessus, on est moins bien payé que les hommes à expérience et à horaire égal. Donc c'est un peu un coup qui peut être parfois un peu compliqué, notamment pour les femmes vétérinaires.
Merci beaucoup vraiment pour ce témoignage, Maëlle, qui recoupe totalement ce qu'on lit dans votre livre, Julien Solonel, à la fois, mais vraiment en toute chose, c'est-à-dire à la fois des gens qui sont à l'écoute de ce que vous dites, mais en même temps, effectivement, qui vont chercher sur Internet en même temps. Et puis, parfois, une forme d'agressivité. Moi, j'ai retenu ce passage quand même. Injures, porte claquée, menaces, diffamation sur les réseaux sociaux. Le rapport qu'on peut... Parce qu'on a ce rapport à son animal, le rapport qu'on a avec son vétérinaire, parfois, est très, très raide.
Oui. Alors, c'est quelque chose qui, malheureusement, touche d'autres métiers. Enfin, les médecins aussi, mais c'est... particulièrement et encore plus fort chez les vétérinaires, parce que y a cet amour qui peut parfois être un peu démesuré des propriétaires pour leurs animaux. Il y a ce relationnel un peu à trois. Il y a cette question de l'argent. Moi, tous les vétos que j'ai interrogés m'ont dit la question de l'argent revient, parce que nous, la médecine humaine, on a la sécurité sociale.
Bien sûr.
Aujourd'hui, personne ne sait combien il coûte quand il se fait soigner.
C'est pour ça que je citais les 600 euros de l'IRM. Mais en effet, si vous allez faire un IRM, vous, humain, parce que vous avez quelque chose, la Sécu va le rembourser. Donc vous ne savez pas combien ça coûte.
Voilà. Donc, Quand la facture arrive, ça peut provoquer, surtout pour des gens qui ne peuvent pas payer, qui adorent leur animal, mais qui ne vont pas pouvoir le soigner, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas payer.
Il y a un autre passage de votre livre que je voudrais lire et qui va dans le sens de ce que disait Maëlle sur la difficulté de ce métier, quand même, sur l'abandon parfois. Et vous disiez, c'est tout à l'heure, je crois que c'est vous, Éric Baratta, ça se passe au fond comme avec les médecins, mais c'est exactement ça. La phrase que je vais lire pourrait être dans la bouche d'un urgentiste ou d'un médecin généraliste n'importe où. Le manque de temps pour mener les consultations, généralement limitées à 15 minutes, me frustrait, me stressait énormément. J'avais l'impression de survoler les disciplines sans les approfondir. J'étais salarié, mes employeurs me mettaient la pression sur la facturation. Je me retrouvais à être de garde toute seule. Je faisais des semaines de 60-65 heures pour un salaire d'ailleurs pas mirobolant, autour de 2000 euros par mois. Une tentative de cambriolage lors d'une nuit de garde. Les euthanasies qui contribuent à plomber encore le moral, tout comme les difficultés avec les clients auxquels je n'étais pas préparé. Les gens s'avèrent parfois agressifs, en particulier la nuit, sans être forcément malveillants, mais ils sont dans un tel état d'angoisse par rapport à leur animal qu'ils nous demandent d'être Dieu. Et moi, Corinne Bisbard, je trouve ça vraiment fascinant, ce genre de témoignage, parce qu'en effet, un médecin dans des urgences normales, si je puis dire, pourrait dire exactement la même chose. Et le témoignage de notre jeune vétérinaire prouve qu'ils savent qu'ils seront confrontés à ça, les jeunes vétos, aujourd'hui.
Alors, je suis pas sûr qu'ils le savent, ils le découvrent. Okay. On est quand même un métier qui est profondément idéalisé. On est un métier que près de la moitié de la population...
C'est un métier que veulent faire les enfants ?
Rêve vrai, de hein. faire, hein. Mm-hmm. Oui. Il faut voir les demandes de stage qu'on a en troisième. Et en fait, cette idéalisation... Alors nous, autrefois, notre génération, on nous appelait les vétérinaires d'Actaris. C'est-à-dire qu'on avait vu d'Actaris, je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, je vois bien. Clarence, le lion qui louche. Je suis assez vieille pour connaître d'Actaris.
Là, maintenant, c'est vrai que c'est l'image pour tout le monde du métier passion, sauf que la passion, ça ne fait pas vivre. Et des fois, ça fait mal. Les écoles vétérinaires, à l'heure actuelle, travaillent énormément sur la préparation des jeunes diplômés à cette vie qui, en fait, n'a plus rien à voir avec la vie de l'école. Alors, je pense que quelles que soient les études, quand on se retrouve dans le grand bain du monde du travail, c'est compliqué, on se retrouve face à la réalité. Mais en particulier pour le rapport client, pour le problème de la mort, le problème du rythme de travail, il y a tout un programme de fait dans les écoles vétérinaires. Il y a des jeux de rôle avec des acteurs qui viennent, qui jouent les différents clients, l'agressif, l'anxieux.
Je vois très bien ce que ça peut donner et ce que vous essayez d'apprendre. Il nous reste peu de temps, je voudrais qu'on ait le temps de parler avec François. Bonsoir François.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel. Donc je suis vétérinaire depuis 7 ans, j'ai travaillé en médecine rurale et puis également en médecine canine plus récemment, alors en Bretagne, en région parisienne. Et donc j'ai eu affaire à des clients et des patients très différents. Et je voulais parler de cette relation-là justement, qui peut être très différente selon les personnes. Je vais prendre un tout petit témoignage de ce matin. Je vais vous raconter une petite histoire de qui s'est passée cet après-midi. Une personne qui est venue pour un vaccin pour un chien, quelque chose qui pourrait paraître
anodin, tout à fait
anodin, alors qu'en réalité, c'est parfois un exercice complexe selon la personne qui se présente à nous et selon le lien qu'elle a avec son animal. Ce petit chien que j'ai vacciné a un peu crié au moment du vaccin. Ça arrive. Et puis j'ai bien prévenu la personne en mettant toutes les formes qu'il fallait que ça pourrait arriver et qu'il pourrait avoir un peu mal dans la journée. Elle a rappelé pour me dire qu'elle ne voudrait plus jamais me voir parce que le chien avait mal, que je l'avais mal piqué. Et puis le deuxième témoignage, c'est le deuxième exemple, c'est un éleveur qui m'a récemment dit qu'il voulait plus me voir également parce que une vache était morte, elle avait une maladie incurable, un corps étranger. Voilà, je passe les détails, mais et elle avait fini par mourir. Donc pour reprendre une de vos questions qui vous est chère, qu'est-ce que ça dit de la relation vétérinaire vétérinaire-patient, c'est que en fait le vétérinaire, plus que le savoir, ce qui est important c'est le savoir-dire. Et puis c'est le savoir-dire, mais c'est aussi expliquer aux gens qu'il n'est pas là pour guérir, mais il est là pour soigner. C'est l'animal qui guérit. Et que malheureusement la mort n'est pas un échec en fait. Et pour beaucoup la mort est un échec. Et finalement cette personne-là, c'est une personne qui est extrêmement attachée à son animal, qui a aussi des habitudes. Elle aime bien qu'on fasse d'une certaine manière. Et donc sans relation de confiance, il n'y a pas possibilité pour elle de bien soigner.
François.
Et c'est vrai que de toute façon, quoi qu'il arrive,
je voulais juste vous couper, pardon, et vous interrompre parce que on va devoir lâcher l'antenne, mais on l'a entendu et il est passionnant votre témoignage. C'est vous qui aurez le mot de la fin, Éric Baratet, là-dessus et sur cette relation très particulière, effectivement, et la relation très particulière de l'animal, mais du coup, ce que ça veut dire pour le vétérinaire derrière.
Oui, alors c'est tout à fait parallèle, vous l'avez dit, avec les médecins. Moi, je rajouterais en tant qu'enseignant avec ce qui se passe dans les écoles. C'est tout à fait... Et ça montre à quel point l'animal de compagnie est un membre de la famille. Parce que là, on voit bien la similitude des conditions.
Et ça dit beaucoup de la détresse et de la pauvreté des relations humaines dans notre monde, voudrait ajouter Gérard, qui nous l'a laissé sur WhatsApp. Je vous remercie tous les trois chaleureusement, et vous tous pour vos nombreux appels.